Ivanhoé, chapitre 29. L'heure du péril est aussi l'heure du dévouement. Nous sommes alors entraînés, malgré nous, par l'agitation générale de notre esprit, à trahir la vivacité de sentiments, que la prudence, dans des temps plus calmes, nous fait du moins dissimuler si nous ne pouvons entièrement les étouffer. En se trouvant encore une fois près d'Ivanhoé, Rebecca fut tout étonnée de la vive émotion de plaisir qu'elle éprouvait, bien que tout ce qui les entourait annonçât le danger et fût de nature à suggérer le désespoir. En lui tâtant le pouls et en s'informant de sa santé, sa main tremblait et ses accents troublés annonçaient un intérêt plus tendre qu'elle n'eût voulu le faire paraître. Et ce ne fut que cette question indifférente d'Ivanhoé « Est-ce vous, douce jeune fille ?» qui rappela à elle-même et lui fit remarquer que le sentiment qu'elle éprouvait n'était pas et ne pouvait pas être partagé. Un soupir lui échappa, mais il fut à peine perceptible, et les questions qu'elle fit au chevalier sur l'état de sa santé lui furent adressées sur le ton calme de l'amitié. Ivanhoé lui répondit vivement que, sous le rapport de la santé, il se trouvait aussi bien et mieux encore qu'il n'aurait pu l'espérer. « Grâce, ajouta-t-il, chère Rebecca, à tes soins habiles. » « Il m'appelle chère Rebecca, dit la jeune fille en elle-même, mais c'est d'un ton froid et indifférent qui s'accorde mal avec le mot. Son cheval de bataille, son chien de chasse, lui sont plus chers que la juive méprisée. « Mon esprit, jeune fille, continua Ivanhoé, est plus agité par l'anxiété que ne l'est mon corps par la douleur. D'après la conversation de ces hommes, qui tout à l'heure me gardaient, j'ai appris que je suis prisonnier, et à en juger par la voix rauque qui les a congédiés tantôt pour quelques services militaires, je suis dans le château de Front de Bœuf. S'il en est ainsi, quelle sera la fin de cette aventure, et comment pourrais-je secourir Rowena et mon père ?»« Il ne parle ni du juif ni de la juive, se dit Rebecca. Mais quel droit avons-nous à sa sympathie ? Oh, combien je suis justement punie par le ciel d'avoir permis à mes pensées de se fixer sur lui !» Après cette courte accusation portée contre elle-même, elle s'empressa de donner à Ivanhoé tous les renseignements qu'elle avait recueillis. Mais ce qu'elle avait à lui apprendre se réduisait à ceci. Que le templier Boisguibert et le baron Front de Bœuf commandaient dans le château, et que la forteresse était cernée au dehors. Mais cernée par qui, elle l'ignorait. Elle ajouta qu'il y avait dans le château un prêtre chrétien qui peut-être en savait davantage. « Un prêtre chrétien, dis-tu ? » s'écria vivement le chevalier. « Amène-le ici, Rebecca, si tu le peux. Dis-lui qu'un homme malade désire profiter de ses conseils spirituels. Dis-lui tout ce que tu voudras, mais qu'il vienne. Il faut que je fasse, il faut du moins que je tente quelque chose. Et quelle détermination prendre si j'ignore ce qui se passe au dehors ?» Rebecca, pour se conformer au désir d'Ivanhoé, fit auprès de Cédric, pour le conduire dans la chambre du chevalier blessé, une tentative qui, ainsi que nous l'avons déjà vu, échoua par l'intervention d'Urfred, laquelle avait aussi de son côté été aux aguets du prétendu moine. Rebecca revint pour communiquer à Ivanhoé le résultat de sa démarche. Ils n'eurent pas le temps de regretter cette source d'information, ni d'imaginer un moyen d'y suppléer, car le bruit dans l'intérieur du château, bruit occasionné par les apprêts de la défense, devint plus considérable et se changea en tumulte et en clameurs de plus en plus assourdissantes. Les pas lourds et précipités des hommes d'armes traversant la plateforme de la tour retentissaient dans l'escalier étroit et les corridors tortueux qui conduisaient aux diverses barbacanes et aux différents points de défense. On entendait la voix des chevaliers animant leurs soldats ou dirigeant les travaux, tandis que leurs ordres étaient étouffés par le cliquetis des armes et les cris assourdissants de ceux à qui ils s'adressaient. Quelque terribles que fussent ces bruits, rendus plus épouvantables encore par l'événement funeste qu'ils présageaient, Il se mêlait cependant à leur horreur un sentiment sublime que l'âme élevée de Rebecca pouvait apprécier, même dans ce moment de terreur. Son œil s'anima, bien que le sang eût quitté ses joues, et c'est avec un mélange de terreur et d'enthousiasme qu'elle répétait, moitié à elle-même, moitié à son compagnon, ces paroles du texte sacré. Le carquois résonne, la lance étincelle, les boucliers s'entrechoquent, on entend le tumulte des chefs et des guerriers. Mais Ivanhoé était comme le coursier belliqueux dont parle ce sublime passage de l'Écriture, brûlant d'impatience et du désir de se précipiter au milieu des dangers dont ce bruit était le prélude. « Si je pouvais seulement me traîner jusqu'à la fenêtre, dit-il, afin de voir la lutte qui va s'engager. Si j'avais seulement un arc pour lancer une flèche ou une hache d'armes pour frapper, ne fût-ce qu'un seul coup pour notre délivrance. Mais non, vain désir, je suis également sans force et sans armes. » « Ne vous tourmentez pas, noble chevalier, lui dit Rebecca. Le bruit vient de cesser tout à coup. Peut-être ne livreront-ils pas la bataille ?»« Tu n'y comprends rien, » reprit Wilfrid avec impatience. « Ce lugubre silence annonce seulement que les hommes sont à leur poste sur les murailles et qu'ils s'attendent à une attaque prochaine. Ce que nous avons entendu jusqu'ici n'a été que le murmure éloigné de la tempête. Elle va éclater dans toute sa fureur. Si je pouvais seulement aller jusqu'à cette fenêtre !» « Noble chevalier, vous ne feriez qu'aggraver votre mal par cet effort, » répliqua la belle garde-malade. Mais en remarquant son ardente inquiétude, elle ajouta avec fermeté, « Je me tiendrai moi-même au barreau, et je vous redirai de mon mieux tout ce qui se passera. »« Gardez-vous-en bien, » s'écria Ivanhoé, « gardez-vous-en bien. Chaque créneau, chaque ouverture sera bientôt un point de mire pour les archers. » Un trait lancé au hasard, il sera le bienvenu, murmura Rebecca. Et d'un pas ferme, elle monta les deux ou trois marches qui conduisaient à la fenêtre dont elle avait parlé. Rebecca, chère Rebecca, s'écria le chevalier, ce ne sont pas des jeux de jeune fille. Ne t'expose pas à être blessée ou tuée, et ne me rends pas à jamais malheureux d'en être la cause volontaire. Ou du moins, couvre-toi de ce vieux bouclier, et ne t'expose que le moins possible. » Obéissant avec une promptitude surprenante aux paroles d'Ivanhoé, et à l'abri du grand bouclier antique qu'elle plaça contre le bas de la fenêtre, Rebecca, suffisamment garantie, pouvait apercevoir ce qui se passait hors du château, et dire à Ivanhoé les préparatifs que les assiégeants faisaient pour l'assaut. La position de cette fenêtre était particulièrement favorable à ce dessein, parce que, étant placée à l'angle du bâtiment principal, non seulement la jeune fille voyait ce qui se passait au-delà des limites de la forteresse, mais encore elle dominait les ouvrages avancés, contre lesquels il était probable que les assiégeants dirigeraient leurs premiers efforts. C'était une fortification extérieure peu élevée et peu forte, destinée à couvrir la porterne par laquelle Front de Bœuf avait récemment fait sortir Cédric. Le fossé du château séparait cet ouvrage avancé du reste de la forteresse, si bien que, si elle venait à être enlevée, il était facile de couper les communications avec le bâtiment principal en retirant le pont volant. Dans cet ouvrage avancé, on avait pratiqué une porte de sortie garnie d'une herse correspondant à la poterne du château, et le tout était entouré d'une forte palissade. Rebecca pouvait juger, par le nombre d'hommes préposés à la défense de ce poste, que les assiégés craignaient d'être attaqués sur ce pont, et par l'accumulation des assiégeants vis-à-vis de cet ouvrage, il paraissait évident qu'on l'avait choisi comme le point le plus vulnérable de la place. La jeune juive se hâta de faire connaître ses préparatifs à Ivanhoé en ajoutant « La lisière de la forêt est bordée d'archers, bien qu'un petit nombre seulement soit sorti de son épais feuillage. »« Quelles bannières ont-ils arborées ?» demanda Ivanhoé. « Je ne puis reconnaître leur insigne de guerre, » répondit Rebecca. « C'est étrange, » murmura le chevalier. vouloir livrer l'assaut à un pareil château sans déployer ni drapeau ni bannière, c'est une nouveauté qui me surprend. Vois-tu ceux qui agissent comme chef ? Le plus remarquable est un jeune chevalier couvert d'une armure noire, dit la juive. Lui seul est armé de pied en cap et semble prendre la direction suprême sur tous ceux qui l'entourent.
« Quelle devise porte son bouclier ?» reprit Ivanhoé.
« Quelque chose qui ressemble à une barre de fer et un cadenas peint en bleu sur un fond noir, » dit Rebecca.
« Des chaînes et un cadenas d'azur ?» dit Ivanhoé. « J'ignore qui peut porter cette devise, mais elle pourrait être la mienne à cette heure. Ne pourrais-tu lire l'inscription ?»«
C'est à peine si je vois la devise elle-même à cette distance, » répondit Rebecca. « Mais lorsque le soleil frappe sur le bouclier, je vois ce que je viens de vous dire. »«
Paraît-il y avoir d'autres chefs ?» dit le chevalier avec anxiété.
« Je ne puis remarquer d'ici personne portant de marque de distinction, » dit Rebecca. « Mais sans doute que, de l'autre côté, le château est également assailli. Il semble se préparer en ce moment à s'avancer. » « Dieu de Sion, protège-nous! Quel terrible spectacle! Ceux qui marchent en tête portent de grands boucliers et portent devant eux un mur fait de planches. Les autres suivent, bandant leurs arcs en cheminant. Voilà qu'ils lèvent leurs arcs. Dieu de Moïse, pardonne à tes créatures !»
Sa description fut tout à coup interrompue par le son aigu d'un cor. C'était le signal de l'attaque, auquel répondit sur-le-champ une fanfare de trompettes normandes partie des créneaux. Ce bruit, mêlé au tintement métallique et bruyant des naquères, sorte de timbales, ripostait par des notes de défi à la provocation de l'ennemi. Les cris poussés des deux côtés augmentèrent cet épouvantable fracas, les assaillants s'écriant « Saint-Georges pour la joyeuse Angleterre !» et les Normands y répondant par « En avant de Bracy, Beauséant, Beauséant, front de bœuf à la rescousse !» suivant les cris de guerre de leurs différents chefs. Ce n'était pas toutefois par des clameurs que la lutte devait se vider, et les efforts désespérés des assaillants rencontrèrent une défense également vigoureuse de la part des assiégés. Les archers, rompus à l'exercice de l'arc par l'usage habituel de cette arme dans la forêt, décochaient leurs flèches avec tant d'adresse, d'ensemble et de précision, que partout où un défenseur découvrait la moindre partie de sa personne, il n'échappait point à leurs traits. Chaque flèche avait son but individuel. On les lançait par vingtaines contre chaque embrasure des parapets ou contre chaque ouverture ou fenêtre où l'on soupçonnait un défenseur. Cette décharge terrible, bien soutenue et drue comme la grêle, tua deux ou trois hommes de la garnison et en blessa plusieurs autres. Mais, pleins de confiance dans leurs armures à l'épreuve et sous l'abri que leur donnait leur position, les soldats de Front de Bœuf et de ses alliés firent bonne contenance et montrèrent autant d'opiniâtreté dans la défense que l'ennemi montrait de fureur dans l'attaque. Ils répondirent donc par une décharge de leurs grandes arbalètes, de leurs arcs, de leurs frondes et autres armes. Et comme les assaillants étaient nécessairement mal abrités, les assiégés leur causèrent infiniment plus de dommages qu'ils n'en reçurent d'eux. Le sifflement des traits et des projectiles, de l'un et de l'autre côté, n'était interrompu que par les cris qui s'élevaient lorsque quelque perte notable était subie par l'un des deux parties.
« Faut-il donc que je reste ici couché comme un moine fainéant ?» s'écria Ivanhoé. « Tandis que le combat qui doit décider de ma liberté ou de ma mort se livre par la main des autres, regarde à la fenêtre encore une fois, aimable jeune fille, mais prends garde d'être aperçu par les archers du dehors. Regarde de nouveau et dis-moi s'ils reviennent à l'assaut. »
Rebecca, avec un courage viril, fortifiée par les prières qu'elle venait de faire, se porta de nouveau à la grille, s'abritant toutefois de manière à ne pas être vue du dehors.
« Que vois-tu, Rebecca ? » demanda encore une fois le chevalier blessé. « Je ne vois rien, » dit-elle, « qu'un nuage de flèches si épais qu'elles éblouissent mes yeux et cachent à ma vue même les archers qui les lancent. »
« Cela ne peut durer, » dit Ivanhoé. S'ils ne marchent pas en masse droit sur le château pour l'emporter de force, leurs flèches n'arriveront à rien et se briseront contre des murs de pierre et des remparts. Tâche de découvrir le chevalier au cadenas, belle Rebecca, et vois comment il se comporte, car tel chef, tel soldat.
« Je ne le vois pas, » dit Rebecca.
« Vil poltron !» s'écria Ivanhoé. « Lâcherait-il le gouvernail au moment où la tempête rugit le plus fort ?»«
Il ne le lâche pas, » dit Rebecca. « Je le vois à présent. Il conduit une troupe d'hommes juste au bas de la barrière extérieure de la lunette. Ils abattent les pieux et les palissades. Ils renversent les barrières à coups de hache. La grande plume noire du chef plane au-dessus de la foule comme un corbeau plane au-dessus du champ des morts. » Ils ont pratiqué une brèche à la barrière. Ils s'y précipitent. On les repousse. Front de Bœuf commande les défenseurs. Sa taille gigantesque domine la multitude. Ils encombrent la brèche, et ce passage est disputé corps à corps, homme à homme. Dieu de Jacob. C'est la rencontre de deux flots puissants, le choc de deux océans agités par des vents contraires.
Elle détourna la tête de la grille, comme si elle ne pouvait plus supporter un pareil spectacle.
« Regarde encore, Rebecca !»
dit Ivanhoé, se méprenant sur la cause de sa retraite. « Le tir doit en quelque sorte être suspendu, puisque maintenant on en est aux mains. Regarde encore, le danger est bien diminué à présent. »
Rebecca regarda donc, et s'écria presque aussitôt,
« Saint prophète de la loi !» Front de Bœuf et le chevalier noir se mesurent ensemble sur la brèche, au milieu des rugissements de leurs soldats, qui suivent la marche de ce combat. Que le ciel fasse triompher la cause de l'opprimé et du captif.
Puis elle poussa un cri aigu et s'écria
« Il est tombé ! Il est tombé !»«
Qui est tombé ?» s'écria Ivanhoé.
« Pour l'amour de Notre-Dame, dis-moi qui est tombé !»«
Le chevalier noir !» répondit Rebecca d'une voix faible. Puis aussitôt elle s'écria de nouveau avec une joie empressée.
« mais non, béni soit le Dieu des armées, il est encore debout. Il se bat comme si son bras avait la force de 20 guerriers. Son épée s'est brisée. Il saisit une hache des mains d'un yéoman. Il presse Front de Bœuf à coups redoublés. Le géant se courbe et chancelle comme un chêne sous la cognée du bûcheron. Il tombe, il tombe !»
« Qui ? Front de Bœuf ? » s'écria Ivanhoé.
« Oui, Front de Bœuf !» dit la juive. « Ces hommes reviennent à la charge, conduits par le fier templier. La réunion de leurs forces oblige le chevalier noir à s'arrêter. Ils entraînent Front de Bœuf dans l'intérieur du château. »«
Les assiégeants ont envahi la barrière, n'est-ce pas ? » demanda Ivanhoé.
« Oui, ils s'en sont rendus maîtres. » Et il serre vivement les assiégés sur le mur extérieur. Les uns plantent des échelles, d'autres fourmillent comme des abeilles et tâchent de grimper sur les épaules les uns des autres. Et voilà des pierres, des poutres, des troncs d'arbres qu'on fait tomber sur leurs têtes. Et dès qu'on a emporté les blessés, de nouveaux combattants les remplacent à l'assaut. Grand Dieu ! As-tu donné aux hommes ton image pour qu'elles soient ainsi cruellement défigurées par la main de leurs frères ?
« Ne songe pas à cela, » dit Ivanhoé. « Ce n'est pas le moment de se livrer à de telles pensées. Quel est le parti qui cède ? Qui a l'avantage ?»«
Les échelles sont renversées, » répliqua Rebecca en frissonnant. « Les soldats gisent, rampant sous elles comme des reptiles écrasés. Les assiégés ont le dessus. »«
Que Saint-Georges nous soit en aide, » dit le chevalier.
« Est-ce que les traites yéomènes fléchissent ?»«
Non !»
s'écria Rebecca. Ils se conduisent en vrai yéomen. Le chevalier noir s'approche de la poterne avec sa lourde hache. Écoutez les coups foudroyants qu'il porte. Vous pouvez les entendre au-dessus du fracas de la bataille et des cris des soldats. On fait pleuvoir sur ce vaillant champion des pierres et des poutres, mais il ne s'en émeut pas plus que si c'était des plumes ou du duvet de chardon.
Par Saint-Jean d'Acre, s'écria Ivanhoé, se dressant joyeusement sur sa couche.
« Il me semblait qu'il n'y avait qu'un seul homme en Angleterre capable d'un pareil fait d'armes. »« La poterne s'ébranle !» continua Rebecca. « Elle cède, elle vole en éclats sous ses coups. Les yéomen s'élancent. Les ouvrages extérieurs sont emportés par eux. Dieu, ils précipitent les défenseurs du haut des remparts dans le fossé.
« Oh, hommes, si vous êtes véritablement des hommes, épargnez ceux qui ne peuvent plus se défendre. »
« Et le pont qui communique avec le château, sont-ils également maîtres de ce passage ?» s'écria Ivanhoé.
« Non, dit Rebecca, le Templier a détruit les planches sur lesquelles on passait. Bien peu de défenseurs sont rentrés avec lui dans le château. Les cris et les hurlements que vous entendez expliquent le sort des autres. Hélas, je vois qu'il est encore plus pénible de regarder la victoire que de suivre la bataille.
« Que font-ils maintenant, jeune fille ?» demanda Ivanhoé.
« Regarde encore, regarde de nouveau. Ce n'est pas le moment de s'apitoyer à la vue du sang. »
« C'est fini pour l'instant, répondit Rebecca. Nos amis accumulent leurs forces dans les ouvrages extérieurs dont ils se sont emparés, et ils y sont si bien à l'abri des traits de l'ennemi que la garnison ne leur lance que quelques viretons de loin en loin, comme s'ils voulaient plutôt les inquiéter que leur faire un mal réel.
« Nos amis, dit Wilfrid, n'abandonneront certainement pas une entreprise si glorieusement commencée et si heureusement poursuivie. Oh non, je me fie au bon chevalier dont la hache d'armes a brisé les nœuds de chaîne et les barres de fer.
C'est étrange, murmura-t-il de nouveau, qu'il y ait ici des hommes doués de tant de courage et de tant d'audace. Des chaînes et un cadenas sur un fond noir, qu'est-ce que cela peut signifier? Ne vois-tu rien encore qui puisse faire reconnaître le chevalier noir?
Non, rien, répondit la juive. Toute son armure est noire comme l'aile de la corneille nocturne, et je n'aperçois aucun indice qui puisse le désigner davantage. Mais l'ayant vu une fois déployer sa force dans la bataille, il me semble que je le reconnaîtrai entre 1000 guerriers. Il s'élance au combat comme s'il allait s'asseoir à un banquet. Il y a en lui plus que la force du corps. On dirait que toute l'âme, toute l'énergie du champion s'épanche à chaque coup qu'il porte à ses ennemis. Que Dieu lui pardonne le sang qu'il a versé. C'est un spectacle bien terrible, mais sublime, de contempler ce bras et de voir comment le cœur d'un seul homme peut triompher d'une armée entière.
Rebecca, reprit Ivanhoé, tu viens de peindre un héros. Certainement les assaillants ne prennent un peu de repos que pour réparer leurs forces ou pour se procurer les moyens de franchir le fossé. Sous un chef tel que ce chevalier, il n'y a point de lâche frayeur, point de froides hésitations. Ils n'abandonneront pas une vaillante entreprise, puisque les obstacles qui la rendent si pénible la rendent aussi glorieuse. Par l'honneur de ma maison, par le nom éclatant de la dame de mes pensées, je consentirai à souffrir 10 ans de captivité pour combattre un jour à côté de ce bon chevalier, en faveur d'une cause aussi juste.
« Hélas !» dit Rebecca en se retirant de la fenêtre et en s'approchant du lit du chevalier blessé. « Ce désir ardent de gloire, cette lutte et ces murmures contre votre faiblesse actuelle, tout cela ne peut que retarder votre guérison. Comment songer à faire des blessures avant que la vôtre soit fermée ?»«
Rebecca, dit-il, tu ignores combien il est amer, pour un homme nourri dans les principes de la chevalerie, de rester inactif comme un prêtre ou comme une femme pendant qu'on accomplit autour de lui des actions d'éclat. L'amour du combat est la nourriture dont nous vivons. La poussière de la mêlée est notre atmosphère. Nous ne vivons, nous ne désirons vivre longtemps que vainqueurs et renommés. Telles sont, jeune fille, les lois de la chevalerie, que nous avons jurées et auxquelles nous sacrifions tout ce qui nous est cher.
Hélas, dit la belle juive. Et qu'est-ce que cela, noble chevalier, sinon un sacrifice au démon de l'orgueil, une offrande au père de Moloch? Que vous reste-t-il pour prix de tout le sang que vous avez répandu, de toutes les fatigues et de toutes les douleurs que vous avez endurées, de toutes les larmes que vos triomphes ont fait couler, lorsque la mort vient briser la lance du fort et arrêter l'essor de son cheval de bataille?
Ce qui reste, s'écria Ivanhoé.
« La gloire, jeune fille, la gloire qui dort notre sépulcre et embaume un souvenir. »«
La gloire, répondit Rebecca.
Hélas, est-ce que la côte de maille rouillée, qui reste suspendue au-dessus de la tombe sombre et poudreuse du guerrier, Est-ce que les caractères effacés de l'inscription que le moine ignorant ne lit qu'avec peine aux pèlerins curieux sont des récompenses suffisantes pour le sacrifice de toutes les affections douces, pour une vie passée misérablement à faire des misérables? La rude poésie d'une bande errante peut-elle vous faire sacrifier l'amour du foyer, la tendre amitié, le repos et le bonheur, pour devenir le héros de ces ballades que les ménestrels vagabonds chantent à des manants ivres, buvant leur halle du soir?
Par l'âme des rewards, s'écria le chevalier avec impatience.
Tu parles, jeune fille, de ce que tu ignores. Tu éteindrais la pure lumière de la chevalerie, qui seule distingue les nobles des vilains, le chevalier du manant et du sauvage, qui nous fait mettre la vie bien au-dessous de notre honneur, qui nous fait vaincre la douleur, la fatigue et la souffrance, et qui nous enseigne à ne craindre d'autre mal que la défaite. Tu n'es pas chrétienne, Rebecca, et tu ne connais pas ces sentiments élevés qui gonflent le sein d'une noble jeune fille quand son amant a fait quelque action d'éclat qui sanctionne sa flamme. La chevalerie! Sais-tu, jeune fille, que c'est l'aliment des affections pures et grandes, le soutien des opprimés, le redresseur des torts et le frein de la puissance des tyrans? Sans elle, la noblesse ne serait qu'un vain nom, et c'est dans sa lance, dans son épée, que la liberté trouve son plus sûr appui.
« Je suis, à la vérité, dit Rebecca, issue d'une race qui a montré du courage dans la défense de son propre pays, mais qui, même lorsqu'elle était encore comptée parmi les nations, n'a fait la guerre que sur l'ordre de Dieu ou pour repousser l'oppression. » Mais Judas ne se réveille plus au son de la trompette, et ses enfants répudiés ne sont plus que les victimes passives de la tyrannie civile et militaire. Vous avez raison, messire chevalier, jusqu'à ce que le Dieu de Jacob suscite du milieu de son peuple un autre Gédéon ou un nouveau Maccabée. Il sied mal à la jeune juive de parler de batailles et de guerres. La généreuse jeune fille termina son discours d'une voix chagrine qui exprimait profondément sa conviction de la décadence de sa race. Réflexion rendue encore plus amère pour elle par l'idée qu'Ivanhoé la considérait comme n'ayant pas le droit d'intervenir dans une question d'honneur ou d'exprimer des sentiments nobles et généreux.
« Oh, qu'il le connaît peu, ce cœur !» se dit-elle. S'il croit que la lâcheté ou la bassesse d'âme doivent nécessairement l'habiter, parce que j'ai blâmé la chevalerie fantasque des Nazaréens. Plutôt ciel que le sacrifice de mon propre sang, versé goutte à goutte, pût racheter la captivité de Judas. Plût à Dieu que par ce sacrifice, je pusse rendre la liberté à mon père et à ce jeune homme, mon bienfaiteur, et briser leurs chaînes. Le fier chrétien verrait alors si la fille du peuple élue de Dieu ne saurait pas affronter la mort avec autant de courage que la plus fière des jeunes filles nazaréennes, glorieuse de descendre de quelque chef des hordes barbares du Nord. Puis elle tourna les yeux vers la couche du chevalier blessé. « Il dort, » dit-elle. « La nature, épuisée par les souffrances du corps et de l'esprit, par la perte du sang et par l'effet de tant de commotions diverses, profite du premier moment de calme pour s'affaisser dans le sommeil. Hélas, est-ce un crime de le regarder, peut-être pour la dernière fois? Il est possible que dans quelques instants, ses beaux traits ne soient plus animés de cette ardeur vaillante qui ne les abandonne jamais, même dans le sommeil, lorsque les narines gonflées, la bouche ouverte, les yeux fixes et injectés de sang, ce fier et noble chevalier sera peut-être foulé aux pieds par le dernier valet de ce château maudit, et ne bougera plus même quand le talon sera levé sur sa tête. Et mon père, oh mon père, le mal habite avec ta fille, puisque tes cheveux gris sont oubliés pour la blonde chevelure du jeune homme. Que sais-je si tous ces mots ne sont pas les précurseurs de la colère de Jéhovah contre la dénaturée qui songe à la captivité d'un étranger plutôt qu'à celle de son père, qui oublie la désolation de Judas pour s'occuper de la beauté d'un gentil et d'un inconnu. Ah, j'arracherai cette faiblesse de mon cœur, du chaque fibre enseignée. » Alors elle s'enveloppa complètement de son voile, et s'assit à quelque distance du lit du chevalier blessé en lui tournant le dos.
fortifiant, ou du moins essayant de fortifier son âme, non seulement contre les dangers imminents qui menaçaient du dehors, mais aussi contre les sentiments intérieurs qui assaillaient son cœur, malgré elle. Chapitre 30. Dans l'intervalle de repos que suivit les premiers succès des assiégeants, tandis qu'un parti se disposait à poursuivre son avantage et que l'autre multipliant ses moyens de défense, le Templier et De Bracy tinrent à la hâte un conseil dans la salle du château. « Où est Front de Bœuf ?» demanda ce dernier, qui avait dirigé la défense de la forteresse de l'autre côté du château. « On dit qu'il a été tué. »«
Il vit, » répondit froidement le Templier. « Il vit encore. Mais aurait-il la tête de taureau qu'il porte sur ses armes et 10 plaques de fer par-dessus pour le protéger ?» Il lui aurait fallu fléchir sous le dernier coup de hache qu'il a reçu. Encore quelques heures, et Front de Bœuf aura rejoint ses ancêtres. C'est un membre puissant à retrancher du parti du prince Jean.
« Et une bonne acquisition pour le royaume de Satan, » dit De Bracy. « Voilà ce qui arrive quand on se moque des saints et des anges, et qu'on ordonne de jeter leurs statues du haut des murs sur la tête de ses ennemis.
« Tais-toi, tu es un sot !» dit le Templier. « Ta superstition ne vaut pas mieux que l'impiété de Front de Bœuf. Aucun de vous n'est en état de donner la raison de sa croyance ou de son incrédulité. »«
Bénédicité, messire Templier, » répliqua De Bracy. « Je vous prie de garder plus de mesure dans vos paroles, quand il vous plaît de parler de moi. Par la mère du Christ, je suis meilleur chrétien que vous et que votre confrérie. » Car il court le bruit assez fondé que le très saint ordre du temple de Sion nourrit bon nombre d'hérétiques dans son sein, et que Brillant de Boisguibert en fait partie.
« Ne fais pas attention à ces rumeurs, » répliqua froidement le Templier, « et songeons à la défense du château. Comment se sont comportés ces villiers homènes de ton côté ?»«
Comme des démons incarnés !» s'écria De Bracy. Ils sont arrivés en fourmilière tout contre les murs, conduits, comme je le pense, par ce drôle qui a gagné le prix de l'arc, car j'ai reconnu son corps et son baudrier. Voilà la politique tant vantée de Fitzurs, qui encourage ces insolents à se révolter contre nous. Si je n'eusse porté une armure à l'épreuve, ce scélérat m'eût abattu avec aussi peu de remords que si j'eusse été un chevreuil dans la saison des chasses. Il a su atteindre tous les joints de mon armure du fer de ses flèches, qui ont frappé mes côtes avec aussi peu de miséricorde que si mes os étaient de fer. Sans la côte de maille espagnole que je portais par-dessous ma cuirasse, j'étais expédié tout de bon.
« Mais tu as tenu ferme dans ton poste, » dit le Templier, « tandis que de notre côté, nous avons perdu la barbacane extérieure. »
« Voilà une perte sérieuse, » dit De Bracy. Ces coquins vont y trouver un abri pour attaquer le château de plus près, et ils pourront, si on les surveille attentivement, gagner quelques coins négligés et pénétrer jusqu'à nous. Nos hommes ne sont pas assez nombreux pour défendre tous les côtés à la fois, et ils se plaignent de ce qu'ils ne peuvent se montrer nulle part sans devenir le point de mire d'une grêle de flèches. Front de Bœuf se meurt, nous n'avons plus de secours à attendre de sa tête énorme et de sa force brutale. « Il me semble donc, sire Brillant, que nous devons faire de nécessité vertu et traiter avec ces rustres en leur rendant nos prisonniers.
« Comment ? » s'écria le Templier. « Rendre nos prisonniers et devenir à la fois un objet de ridicule et d'exécration ? Oh ! Les illustres guerriers qui ont eu juste assez d'audace pour se rendre maîtres dans une attaque nocturne d'une troupe de voyageurs sans défense, mais qui n'ont pu se maintenir dans un château ? Contre une bande d'outlaws vagabonds conduite par des porchers, par des bouffons, par le rebut du genre humain. Fi du conseil, Maurice de Bracy, les ruines de ce château enseveliront mon corps et ma honte avant que je consente à une capitulation si vile et si déshonorante.
Rendons-nous alors au mur, dit de Bracy avec nonchalance. Jamais il n'a existé d'homme, soit turc, soit templier, qui fut moins de cas de la vie que moi. Mais je crois qu'il n'y a pas de honte à regretter de ne pas avoir ici quelques vingtaines de mes vaillants francs compagnons.
Oh, mes braves lances, si vous saviez seulement dans quelle passe se trouve aujourd'hui votre capitaine, comme je verrai bientôt flotter ma bannière en tête de la masse serrée de vos pics, et avec quelle vitesse cette canaille de Manon lâcherait pied à votre approche.
Appelle de tes souhaits qui tu voudras, s'écria le Templier, mais défendons-nous comme nous le pouvons avec les soldats qui nous restent. Ce sont pour la plupart des hommes de front de bœuf, détestés par les Anglais pour des milliers d'actes d'insolence et de tyrannie.
Tant mieux, dit de Bracy, ces grossiers esclaves se défendront jusqu'à la dernière goutte de leur sang, plutôt que de s'exposer à la vengeance des rustres qui nous attaquent. À l'œuvre donc, brillant de Bois-Guibert, et mort ou vivant, vous verrez aujourd'hui Maurice de Bracy se comporter en gentilhomme de haute valeur et de noble lignage.
« Aux murailles ! Aux murailles !» s'écria le Templier.
Et tous deux montèrent sur les remparts, afin de tenter pour la défense de la place tout ce que l'adresse pouvait inspirer, tout ce que le courage pouvait accomplir. Ils reconnurent aisément que le point le plus menacé était celui qui faisait face à la fortification avancée dont les assaillants s'étaient rendus maîtres. Le château, à la vérité, était séparé de cette barbacane par le fossé, et il n'était pas possible aux assiégeants d'attaquer la poterne du fort, située en face de celle de la redoute. Mais le Templier et de Bracy pensèrent tous deux que les assiégeants, s'ils étaient conduits avec autant d'habileté qu'à l'attaque précédente, s'efforceraient par un assaut formidable d'attirer principalement sur ce point l'attention des défenseurs de la place, pendant qu'ils chercheraient à surprendre quelque autre point moins bien gardé. Pour se mettre en garde contre cette ruse, le nombre des défenseurs étant, comme on sait, fort restreint, les chevaliers placèrent, de distance en distance, sur les murailles, des sentinelles communiquant les unes avec les autres, en leur enjoignant de donner l'alarme à la moindre apparence de danger. En attendant, il fut résolu que de Bracy se chargerait de défendre la poterne, et que le Templier garderait près de lui une vingtaine d'hommes, comme corps de réserve, et avec lesquels il serait prêt à se porter sur tous les points qui pourraient être soudainement menacés. La perte de la barbacane avait eu encore ce fâcheux résultat que, malgré la hauteur supérieure des murs du château, les assiégés ne pouvaient voir de ces murs avec la même sûreté de coup d'œil les opérations de l'ennemi. Car un taillis clairsemé s'avançait si près de la porte de sortie de cet ouvrage que les assiégeants pouvaient y introduire les forces qu'il leur plaisait, non seulement sans danger, mais sans même être aperçus des assiégés. Dans la complète incertitude du point sur lequel l'orage allait éclater, de Bracy et son compagnon furent obligés de pourvoir à tous les événements possibles, et leurs partisans, quelque braves qu'ils fussent, éprouvèrent cet abattement et cette inquiétude que doivent ressentir des hommes entourés d'ennemis qui peuvent choisir à leur gré le moment et le genre d'attaque. Pendant ce temps-là, le seigneur du château gisait sur un lit, en proie à la douleur physique et à une agonie morale. Il n'avait pas la ressource ordinaire des dévots de cette époque superstitieuse, dont la plupart expiaient, par des largesses faites aux églises, les crimes dont ils s'étaient rendus coupables, amortissant de cette manière leur terreur par l'idée de l'expiation et du pardon. Et bien que le calme obtenu ainsi ne ressemblât pas plus à la tranquillité d'âme qui suit le repentir sincère que la douceur stupéfiante de l'opium ne ressemble au sommeil sain et naturel, c'était toujours un état d'esprit préférable aux agonies du remords ravivé. Mais de tous les vices de front de bœuf, homme dur et cupide, l'avarice était le vice prédominant, et il aimait mieux braver l'église et les prêtres que d'acheter de leurs mains le pardon et l'absolution au prix de ses richesses et de ses manoirs. Le Templier, qui était un impie d'une autre trempe, n'avait pas caractérisé avec justesse son associé, en disant que Front de Bœuf n'aurait pu assigner aucune cause à son incrédulité et à son mépris pour la foi générale. Car le baron aurait allégué que l'Église vendait ses indulgences trop chères, et que la liberté spirituelle qu'elle mettait en vente ne pouvait être achetée que,
comme celle du commandant en chef de Jérusalem, avec une forte somme. Éphron de Bœuf aimait mieux contester la vertu du remède que de payer les frais du médecin. Mais le moment était arrivé où la terre et tous ses trésors allaient s'évanouir devant ses yeux, et où le cœur de granit du sauvage baron allait enfin connaître l'épouvante, alors que ses regards plongeaient sur le sombre abîme de la vie future. La fièvre qui brûlait son sang ajoutait à l'impatience et à l'agonie de son esprit, et son lit de mort offrait le spectacle d'une lutte horrible entre les sensations de terreur qui s'éveillaient pour la première fois en lui et des passions invétérées qui cherchaient encore à les écarter. C'était un marasme horrible auquel on ne pourrait trouver d'équivalent que dans ces régions affreuses où l'on rencontre les plaintes sans espérance, les remords sans repentir, le sentiment redoutable d'une douleur présente et une certitude que cette agonie n'aura ni fin ni soulagement. « Où sont ces chiens de prêtres maintenant ?» hurla le baron, « qui ont estimé si haut leur momerie spirituelle ?» Où sont ces carmes déchaussés pour lesquels le vieux Front de Bœuf a fondé le couvent de Sainte-Anne, dépouillant son héritier de maints bons arpents de prairies et de maints champs et closeries? Où sont-ils maintenant, ces chiens avides? Ils se vautrent dans l'âle, j'en suis sûr, ou grimacent leur jonglerie au chevet du lit de quelque paysan avare. Moi, l'héritier de leur fondateur, moi pour qui ils sont tenus de prier par leur statut de fondation. Moi, monstres ingrats qu'ils sont, ils me laissent mourir comme le chien vagabond et traqué, sans me confesser ni m'administrer. Dites au templier de venir ici. Il est prêtre, lui, et pourra faire quelque chose. Mais non, autant vaudrait me confesser au diable qu'à Brillante Bois Guilbert, qui n'a souci ni du ciel ni de l'enfer. J'ai entendu des vieillards parler de prières faites par soi-même. Ceux-là n'ont pas besoin de courtiser ou de suborner de faux prêtres. Mais je n'ose. Regina de Front de Bœuf, dit une voix cassée et aiguë à côté de son lit, vit-il donc pour dire qu'il existe quelque chose qu'il n'ose faire? La conscience bourrelée et les nerfs ébranlés, Front de Bœuf crut entendre, dans cette étrange interruption de son monologue, la voix de l'un de ses démons, qui, suivant les idées superstitieuses de l'époque, hantaient les lits des mourants pour distraire leurs pensées et les détourner des méditations qui intéressaient leur salut éternel. Il frissonna, et ses membres se couvrirent d'une sueur froide. Mais, rappelant presque aussitôt son courage habituel, il s'écria « Qui est là? Qui es-tu? Qui ose répéter mes paroles d'un ton semblable au croassement du corbeau nocturne ?» « Parais devant ma couche, afin que je te voie. »« Je suis ton mauvais ange, Réginald Front de Bœuf, » répliqua la voix. « Prends une forme qui te rende visible à mes yeux, » dit le chevalier mourant, « et ne crois pas que ta vue puisse m'intimider. Par la prison éternelle, si je pouvais seulement lutter avec les horribles images qui planent autour de moi, ainsi que je l'ai fait avec les dangers de la terre, ni le ciel ni l'enfer ne diraient que j'ai refusé le combat. » « Pense à tes crimes, Réginald Front de Bœuf, » reprit la voix presque surnaturelle. « Pense à ta rébellion, à tes rapines, à tes meurtres. Qui a poussé le licencieux prince Jean à se révolter contre les cheveux blancs de son père, contre son généreux frère ?»« Qui que tu sois, furie, prêtre ou démon, » répondit Front de Bœuf. « Tu mens par la gorge. Ce n'est pas moi seul qui ai poussé le prince à la révolte. Nous étions 50 chevaliers et barons, la fleur des comtés des provinces centrales, les hommes les plus braves qui aient jamais mis une lance en arrêt. Dois-je répondre des fautes de tous? Esprit infernal, je te défie. Retire-toi et n'approche plus de ma couche. Si tu es un être mortel, laisse-moi mourir en paix. Et si tu es un démon, ton heure n'est pas encore venue. » « Tu ne mourras pas en paix, » répéta la voix. « Même à ton lit de mort, tu te représenteras tes meurtres, les gémissements qui ont retenti dans ce château et le sang qui en rougit encore les murs. »« Tu ne pourras m'intimider par de vains mots, »
répondit Front de Bœuf avec un rire horrible. Le juif infidèle, c'était œuvre pie aux yeux du ciel de le traiter comme je l'ai fait. Sinon, pourquoi canoniserait-on des hommes qui ont trempé leurs mains dans le sang des Sarrasins? Les porcs saxons que j'ai tués étaient les ennemis de mon pays, de ma race et de mon seigneur Lige. Oh, tu vois qu'il n'y a pas de défaut à mon armure. As-tu fini? Es-tu réduit au silence?
Non, parricide vil et impur, répliqua la voix. Pense à ton père, pense à sa mort, pense à cette salle de festin inondée de son sang, de ce sang répandu par la main d'un fils.
Ah! Répondit le baron après une longue pause. Si tu sais cela, tu es en effet l'esprit du mal, et comme le disent les moines, tu as l'omniscience. Je croyais ce secret enseveli dans mon propre sein et dans celui d'une femme, l'instigatrice, la complice de mon crime. Va, laisse-moi, démon. Va chercher la sorcière saxonne Ulrika, qui seule a pu te dire ce dont elle et moi avons été seuls témoins. Va, te dis-je, vers elle, qui a lavé les blessures et redressé le cadavre, qui a su donner à l'homme assassiné l'apparence d'un homme mort naturellement et suivant les lois de la création. Va la trouver. Elle a été ma tentatrice, ma vile provocatrice, et la récompense encore plus vile de l'action. Qu'elle subisse comme moi les tortures qui préludent à l'enfer.
Elle les ressent déjà, s'écria Ulrika en ouvrant les rideaux et en se montrant devant le lit de Front de Bœuf. Depuis longtemps elle a bu à cette coupe, mais elle la trouve moins amère en voyant que tu la partages. Ne grince pas des dents, Front de Bœuf, ne roule pas ainsi les yeux, ne ferme pas le poing et ne le lève pas vers moi d'un air menaçant. La main qui aurait pu, comme celle de ton célèbre aïeul, qui le premier reçut le nom que tu portes, briser d'un seul coup le crâne d'un taureau de la montagne, est maintenant comme la mienne, énervée et impuissante.
Vile sorcière, détestable scélérate, hideuse orfraie, s'écria Front de Bœuf. C'est donc toi qui viens jouir de la vue de mon désespoir, qui viens faire entendre tes cris de joie sur les ruines qui sont ton ouvrage?
Oui, Regina de Front de Bœuf, répondit-elle. C'est Ulrika, c'est la fille de Torquil Wolfganger que tu as assassinée. C'est la sœur de ses fils massacrés. C'est elle qui vient redemander, à toi et à la maison de ton père, son père et ses parents, son nom et son honneur, tout ce que la main des Front de Bœuf lui a fait perdre. Pense aux outrages que j'ai reçus, Front de Bœuf, et réponds-moi si je ne dis pas vrai. Tu as été mon âme damnée, je dois être la tienne, et mes malédictions t'accompagneront jusqu'à ton dernier soupir.
Détestable furie, hurla Front de Bœuf. Tu ne seras pas témoin de ce moment. Hola, Gilles, Clément, Eustache, Saint-Maur, Étienne, saisissez cette damnée sorcière et lancez-la la tête en bas du haut des remparts. Elle nous a livrés aux Saxons. Hola, Saint-Maur, Clément, scélérat, traître, me répondrez-vous?
Appelle-les encore, vaillant baron, continua la sorcière avec un sourire d'affreuse ironie. Appelle tes vassaux autour de toi, condamne ceux qui tardent aux étrivières et aux cachots. Mais sache, puissant capitaine, reprit-elle en changeant subitement de ton, que tu n'as ni réponse, ni secours, ni obéissance à attendre d'eux. Écoute ces bruits horribles.
Car le tumulte de l'assaut et de la défense retentissait d'heure chef dans tout le château.
Ces cris de guerre annoncent la chute de ta maison. L'édifice de la puissance des Front de Bœuf, cimenté par le sang, s'ébranle jusque dans ses fondements devant les ennemis qu'il a le plus méprisés. Le Saxon, Réginald, le Saxon attaque tes murailles. Pourquoi restes-tu couché comme un paysan perclus, tandis que le Saxon emporte d'assaut ta forteresse?
Ciel et enfer! Vociféra le chevalier blessé. Oh, encore quelques instants de force, que je puisse me traîner jusqu'à la mêlée et y trouver une mort digne d'un homme de mon rang. N'y pense pas, vaillant guerrier, dit Ulrika. Tu ne mourras pas de la mort du soldat. Tu périras comme le renard dans sa tanière lorsque les paysans ont mis le feu à la paille humide.
Tu mens, affreuse mégère, s'écria Front de Bœuf. Mes gens se comportent bravement. Mes murailles sont fortes et élevées, et mes deux amis ne craindraient pas une armée entière de Saxons quand elle aurait pour chef Angis et Orsa. Le cri de guerre du Templier et des francs compagnons se fait entendre au-dessus du combat. Et, sur mon honneur, le feu de joie que nous allumerons pour célébrer notre victoire consumera jusqu'à tes os. Je vivrai assez pour savoir que tu es passé des feux terrestres dans ceux de l'enfer, qui n'a jamais vomi sur la terre un démon plus malfaisant que toi.
Conserve cette espérance jusqu'à ce qu'elle se réalise, répondit Ulrika avec un soupir infernal.
Mais non, ajouta-t-elle en s'interrompant. Tu connaîtras dès à présent le sort que ni ton pouvoir, ni ta force, ni ton courage ne peuvent conjurer. Et ce sort, ce sont ces faibles mains qui l'ont préparé. Ne remarques-tu pas cette vapeur suffocante et cet tissu qui déjà tournoie en spirale noire autour de cette chambre? Crois-tu que ce soit seulement tes yeux qui s'obscurcissent et ta respiration qui devient difficile? Non, Front de Bœuf, il y a une autre cause. Tu n'as pas oublié l'amas de combustible accumulé sous cet appartement.
Femme ! S'écria le chevalier avec fureur. Tu n'y as pas mis le feu.
Mais si, par le ciel, tu l'as fait, et le château est livré aux flammes.
Du moins, elles ne tarderont pas à s'élever dans les airs, répondit Ulrika avec un calme effrayant. Et un signal va avertir les assiégeants de presser vivement ceux qui chercheraient à les éteindre. Adieu, Front de Bœuf. Puissent Mystas, Cogula et Zernebock, les dieux des anciens Saxons, les démons, ainsi que les prêtres d'aujourd'hui les appellent, te servir de consolateur autour de ton lit de mort, car Ulrika t'abandonne. Mais sache, si toutefois cela peut te consoler, qu'Ulrika va partir en même temps que toi pour le rivage obscur. Elle sera la compagne de ton châtiment comme elle a été celle de ton crime. Et maintenant, parricide, adieu, adieu pour jamais. Puisse chaque pierre de cette voûte trouver une langue pour répéter cette flétrissure à ton oreille.
En disant ces mots, elle quitta la chambre, et Front de Bœuf entendit le grincement de la clé massive. La Saxonne fermait la porte à double tour et lui enlevait ainsi toute chance d'évasion. Dans son extrême agonie, il appela à son aide ses domestiques et ses alliés.
« Étienne, Saint-Maur, Clément, Gilles, je brûle ici sans secours. À l'aide, à l'aide! Brave Bois-Guibert, vaillant de Brassy, c'est Front de Bœuf qui appelle. Traîtres écuyers, c'est votre maître, c'est votre allié, votre frère d'armes, chevalier parjures et infidèles. Que toutes les malédictions dues aux traîtres descendent sur vos têtes coupables. Est-ce que vous me laisserez périr aussi misérablement? Ils ne m'entendent pas, ils ne peuvent pas m'entendre. Ma voix se perd dans le fracas de la bataille. La fumée devient de plus en plus épaisse. La flamme atteint déjà le dessous de ce plancher. Oh, un souffle d'air, fût-ce au prix d'une mort immédiate. »
Dans la folle frénésie de son désespoir, le malheureux mêlait ses cris à ceux des combattants. Puis il proférait des malédictions sur lui, sur le genre humain, contre le ciel même.
« La flamme rougeâtre perce la fumée épaisse » s'écria-t-il. « Le démon marche vers moi sous la bannière de son propre élément. » Arrière, esprit malfaisant, je ne vais pas avec toi sans mes compagnons. Tout ce qui est dans ces murs t'appartient. Penses-tu que Front de Bœuf s'en aille tout seul? Non, le Templier infidèle, le luxurieux de Brassy, Ulrika, la ville prostituée, l'abominable meurtrière, les hommes d'armes qui m'ont aidé dans mes entreprises, les chiens saxons et les juifs damnés qui sont mes prisonniers, tous doivent me suivre. « Jamais plus joyeuse confrérie n'aura pris le chemin des sombres lieux. »
Et dans son délire,
il poussa des éclats de rire qui firent résonner la voûte.
« Qui rit ici ?» s'écria Front de Bœuf d'une voix altérée.
Car le bruit du combat n'empêcha pas l'écho de son rire forcené de revenir frapper son oreille.
« Qui rit ici ? Est-ce toi, Ulrika ?
Parle, parle, furie lascive, et je te pardonne, car il n'y a que toi ou le démon de l'enfer lui-même qui puisse rire dans un pareil moment.
Arrière, arrière !
Mais ce serait une impiété de nous arrêter plus longtemps auprès du lit de mort, du blasphémateur et du parricide. »